tous les enseignements de cette rencontre et tout ça, ça se poursuit demain dans le podcast On refait le match avec Florent Gazan et toute l'équipe des sports de RTL, podcast quotidien que vous retrouvez sur RTL.fr et sur l'application RTL. Merci beaucoup Xavier.
Merci Eric,
merci à Baptiste Durieux également. On se retrouve évidemment très vite pour RTL Foot la semaine prochaine. Nous débuterons avec Montpellier-Nantes, match important dans la lutte pour le maintien. Ce sera vendredi soir à 21h. Très bonne fin de soirée à l'écoute de RTL. Vous avez rendez-vous avec Karine Dublanche pour Parlons-nous.
RTL.
Caroline qui va nous apaiser la fin de soirée. RTL, il est 23h.
L'Oréal. 23h, 1h. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver ce dimanche soir pour dialoguer avec vous jusqu'à 1h du matin. Et merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à prolonger le week-end en notre compagnie et à nous écouter le dimanche de 23h à 1h. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, où Violaine et Paul vont vous accueillir, recueillir vos confidences et vous guider jusqu'à l'antenne sous le regard attentif de Dany Matou qu'à la réalisation de l'émission. 09 69 39 10 11, parlons-nous de tout ce qui vous tient à cœur. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Merci.
Vous avez passé un bon week-end ?
À peu près.
À peu près. Bon. Et alors ce soir, qu'est-ce qui vous a donné envie de m'appeler ?
Ben, alors déjà, je vous écoute régulièrement. Donc je connais bien l'émission et j'aime beaucoup ce que vous faites.
C'est gentil, merci.
Voilà, j'écoute beaucoup en replay.
Oui.
Les émissions et donc déjà voilà, il y a beaucoup de choses qui m'aident à comprendre parfois ma situation,
oui. Enfin,
situation que je peux vivre moi.
Oui.
Je me reconnais dans pas mal de témoignages en fait.
D'accord. Et ça vous aide un peu à réfléchir sur ce qui vous arrive.
Oui.
Et c'est quoi votre situation alors ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors ben là, j'appelais surtout par rapport à l'angoisse.
Oui.
Parce que j'ai des sensations d'angoisse.
Oui.
Donc ça se manifeste de plusieurs façons, mais en ce moment c'est surtout la peur du vide en fait. Je sais pas comment vous dire.
Mais oui.
Donc c'est surtout lié à la solitude.
Oui.
Mais d'autres fois c'est plutôt justement des phobies liées à certaines situations.
Quelles sont les situations qui déclenchent ces peurs ?
Il y a la phobie sociale, donc c'est le contact avec les autres.
Oui.
Et puis sinon, je fais de l'agoraphobie aussi. Donc c'est les espaces vides, les déplacements.
Oui.
Certains types de lieux, en fait, ou de transport. Enfin,
oui.
C'est un peu.
On revient à cette peur du vide.
Oui, en fait, ça, oui, oui.
Et quand vous parlez de sensations, c'est-à-dire que ça se manifeste physiquement ?
Oui, bah là par exemple, tout à l'heure j'avais comme une oppression dans le plexus solaire, enfin du mal à respirer, un peu comme si on m'étouffait, je manquais d'air, des douleurs dans le dos, après c'est souvent aussi au niveau du ventre que j'ai des douleurs. Mais voilà, ça dépend des moments. Mais parfois, ça dépend des situations, en fait.
Et depuis combien de temps éprouvez-vous ces angoisses-là, Sandra ?
Ben, en fait, c'est compliqué parce que déjà, enfant, j'en avais.
D'accord. Enfant, ça se manifestait comment ?
Oui. Eh ben, enfant, c'était... Alors, il y avait plusieurs choses. Je faisais des insomnies, déjà, des cauchemars. Mais sinon, c'était des crises d'angoisse. Donc, c'était très ponctuel, mais très violent.
Vous en avez le souvenir ?
Un peu. Mais en gros, je me souviens de quelques moments où j'ai cru que je mourais, où j'avais l'impression de mourir. Ouais.
Mais l'angoisse peut donner ce sentiment-là ?
Ouais.
Ouais,
c'était très très dur. Ouais. Donc je pleurais, je n'arrivais plus à manger.
Comment réagissaient vos parents ?
Bah justement, je m'en souviens pas trop. de comment il réagissait, quoi, parce qu'on m'a souvent posé cette question.
Vous n'avez pas le souvenir d'être réconfortée, consolée?
En fait, j'ai des souvenirs, mais de ma grand-mère, parce oui. que j'allais beaucoup la voir. En fait, j'ai toujours été très proche de ma grand-mère,
oui.
et ça m'est arrivé de faire des crises chez elle.
Oui.
Donc, je me souviens qu'on m'avait offert des cadeaux. Enfin, des personnes de ma famille étaient venues me voir, mais plutôt des oncles, des tantes. Je ne me souviens pas de mes parents.
C'est votre grand-mère qui s'occupait beaucoup de vous ?
Ben, en fait, pas tant que ça. Je la voyais surtout pour les vacances.
Mm.
Mais j'ai, en fait, c'est bizarre. J'ai beaucoup plus de souvenirs avec ma grand-mère
oui.
qu'avec mes parents.
Oui.
En tout cas, dans l'enfance, je...
De souvenirs doux avec votre grand-mère ?
Oui, oui, c'est oui, ça. Oui, de souvenirs de réconfort. De... Mm. Et même encore aujourd'hui, parfois, quand je me sens mal, je me replonge dans ces moments-là.
C'est important.
Pour m'apaiser.
Elle est toujours là, votre grand-mère ?
Bah, elle est là, mais elle est très, très âgée maintenant. Elle est en fin de vie, quoi.
Ah, en fin de vie ?
Oui, enfin, disons que oui, je pense qu'elle va pas...
Mais elle est malade, elle est hospitalisée.
Elle est en EHPAD, en
oui.
fait. Donc, elle n'a pas de problème de santé particulier, mais elle est vraiment très âgée et on se...
oui.
elle diminue quand même petit à petit. Donc,
Vous la voyez ?
Non, je la vois presque plus maintenant.
Pourquoi ?
Y a eu un éloignement géographique petit à petit... J'ai déménagé un peu loin. Et puis voilà, puis j'ai eu d'autres soucis avec ma famille qui font que je me suis un peu éloignée.
De votre famille ?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez eu comme soucis ?
Bah, je ne sais pas comment vous dire, mais il y avait beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de problèmes, en fait.
Avec vos parents ou vous avez des frères et sœurs ?
Un peu, oui. J'ai des frères et sœurs, mais c'est un peu global. Et en fait, petit à petit, je me suis éloignée d'eux et j'ai fait du travail sur moi-même.
Oui.
En psychologie et je me suis rendu compte qu'ils avaient eu des attitudes un peu toxiques, on va dire.
Mmh.
Donc c'est pour ça, petit à petit, que j'ai mis
la distance.
Ouais.
Qui était nécessaire, mais qui peut-être. Influe aussi sur ce sentiment que vous avez, ce ressenti de solitude.
Bah là, du coup, oui. La conséquence, c'est ça.
Oui, parce que vous n'avez, semble-t-il, pas eu le choix pour essayer d'aller mieux et pour vous protéger, de mettre de la distance, mais c'est au prix d'une solitude. Parce que vous ne pouvez pas trouver de soutien auprès d'eux.
Bah, j'ai quand même ma mère qui me soutient un peu.
D'accord.
J'ai quelques coups de fil, donc les tempes, mais c'est rare.
Mm.
Par contre, je ne vois plus mes frères et sœurs et je ne vois plus non plus mon père.
Qu'est-ce qui se passait avec votre père ? Ils sont séparés, vos parents ?
Oui, oui.
Oui.
Donc déjà, la séparation a été très violente entre eux. Et
dans quel sens ?
Ben, ils se sont vraiment déchirés, quoi. Déjà, avant de se séparer, ils se sont énormément disputés. Et après, le divorce, c'est pas très bien passé, quoi.
Et vous étiez enfant quand ils se sont séparés ?
J'avais 18 ans, donc...
Oui, non, vous n'étiez plus un enfant.
Non.
Mais dans votre enfance, ils se disputaient déjà beaucoup, vos parents ?
Alors, j'en ai pas forcément beaucoup de souvenirs. Oui, j'ai quelques scènes de souvenirs où ils se disputaient.
Vous n'avez pas beaucoup
d'accord.
de souvenirs de votre enfance, hormis ceux avec votre grand-mère ?
Oui et non, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai des souvenirs des lieux où j'ai vécu.
Oui.
Des activités que j'ai faites.
Oui.
Des amis que j'ai eus, de l'école où j'étais, des choses comme ça.
Oui.
Mais pas vraiment de mes parents ou de mon mari.
À la maison.
C'est bizarre, oui. Je me souviens, par exemple, d'être dans le jardin, m'amuser dans le jardin beaucoup, des animaux que j'avais, des camarades que j'avais, et de ma grand-mère, de mes grands-parents.
Oui.
Mais je ne peux pas vous dire, je me souviens de tel repas ou de tel événement.
Oui, de vie, de famille, de moments de partage avec vos parents.
C'est très rare. Alors là, par exemple, j'ai une image qui me vient en tête, mais justement sur la terrasse du jardin, on faisait des repas. Mmh. Mais c'est tout.
Mais comme si vous étiez déjà seule, enfant.
En fait, c'est ça. Mais en fait, c'est ce que je voulais dire au début, c'est que là, je souffre énormément de solitude et je n'arrive pas à la gérer. Mmh. J'ai l'impression que ça m'oppresse.
Oui.
Ça m'angoisse. Mmh. Et enfant, c'était le contraire. Je cherchais vraiment la solitude. Enfin, j'ai l'impression que j'étais bien seule, que je faisais des activités seule.
N'aviez peut-être pas d'autre choix. N'aviez peut-être pas d'autres possibilités.
Bah ça, du coup, je ne sais pas vous dire si c'était subi ou voulu.
Vous parlez de vos animaux. Vous aviez des animaux.
Oui, j'avais des chats. Mmh. Et j'avais des amis qui avaient des animaux de ferme.
Vous trouviez un réconfort auprès de...
Ah oui, oui. Ouais. Toujours et encore aujourd'hui, c'est vraiment très très important.
Vous avez des animaux avec vous ?
Alors actuellement non, parce que j'ai des conditions de vie un peu compliquées, mais je compte en avoir dans l'avenir, oui, à nouveau, parce que...
Pourquoi vous avez des conditions de vie compliquées ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Parce que je vis je vis dans des petits appartements ou chez l'habitant, ou c'est pas vraiment autorisé.
Ah oui, je comprends. Vous avez quel âge aujourd'hui, Sandra ?
Là, j'ai 38 ans, oui.
38 ans. Vous avez une activité professionnelle ?
Non, plus maintenant.
Vous êtes en arrêt maladie ou du fait de vos symptômes ou...
Non, c'est de suite à mes problèmes. Petit à petit, j'ai arrêté de travailler.
Ah oui, qu'est-ce que vous faisiez ?
Alors, j'ai fait plusieurs activités. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé comme secrétaire.
Mmh. Ça vous plaisait ?
Pas trop.
Pas trop.
Non.
Vous aviez un projet en tête ?
Non. Non, en fait, j'ai voulu être vite indépendante, justement. Quand je suis devenue à l'âge majeur, enfin j'ai voulu vite travailler.
Oui, donc, être indépendante.
Pour quitter le foyer.
Oui.
Parce qu'il y avait trop de conflits. Et du coup, je me suis pas posé la question de ce que j'aimerais faire ou pas.
Trop de conflits avec vos parents.
Oui, dans la famille. Oui.
Et avec vos frères et sœurs que vous ne voyez plus.
Bah c'était un peu pareil.
Ils sont plus âgés, plus jeunes que vous ?
Je suis au milieu.
Vous êtes au milieu. Vous n'avez pas gardé de contact, vous n'étiez pas proche d'eux ?
Non.
Moi, ce qui m'interroge, c'est que vous me dites que ces crises d'angoisse étaient déjà présentes dans votre enfance. Avec, me dites-vous, des insomnies, des cauchemars, des crises de larmes. Et évidemment, un enfant qui est en proie à de telles angoisses, en général, ça questionne ses parents.
Alors justement, pour avoir consulté beaucoup de thérapeutes...
Ils ont fait des démarches quand vous étiez enfant.
Moi adulte.
Ah, adulte, mais pas enfant.
Alors, si, apparemment, j'ai été voir une fois une pédopsychiatre.
D'accord.
Qu'une fois ou deux.
Oui.
Mais j'en sais pas plus, en fait. Moi, je ne me souviens pas.
Vous ne vous souvenez pas. Et en revanche, adulte, vous avez fait la démarche.
Oui, à partir de l'âge de 18 ans, donc assez jeune.
Oui, quand vous êtes partie, en fait.
Oui, mais même parce que je faisais des études. Enfin, bref, je me suis intéressée tôt à la psychologie.
Mais oui.
J'ai lu pas mal de livres, j'essayais de me comprendre.
Cherchiez à comprendre, ce qui se passait en vous. Qu'est-ce que vous avez compris alors de vous, finalement, de cette insécurité qui est en vous ?
Déjà, j'ai compris que j'étais hypersensible, donc ça, ça joue beaucoup. Et puis, j'ai pas eu un contexte familial aidant. Et après, il y a eu pas mal d'éléments négatifs qui ont accentué.
C'est quoi ces éléments négatifs auxquels vous faites référence?
Eh bien, en fait, comme je disais à Violaine, j'ai subi pas mal de harcèlement moral dans ma vie.
À l'école?
Alors, pas à l'école, mais dès que j'ai commencé à travailler.
Ah bon?
Ouais, ouais. Toute ma vie où j'ai travaillé.
Dans vos emplois successifs?
Oui, oui, sans arrêt. Donc...
Comment ça se manifestait? Qu'est-ce qui... Enfin...
En fait, j'avais l'impression... Bah, j'arrivais dans un boulot, j'avais l'impression de ne pas être à l'aise avec les autres. Et j'étais très, très, très réservée.
Oui.
Enfin, à l'époque, parce que maintenant, plus trop.
Ouais, ça a évolué alors, c'est bien.
Ça a évolué. Mais à l'époque, j'étais très timide. Donc, les gens... J'avais l'impression que les gens voyaient mon mal-être et que du coup, ils appuyaient dessus. Oui. Et du coup, j'étais mise à l'écart. J'étais. C'est comme si à chaque fois, j'étais pas comme les autres, parce que je parlais pas beaucoup, j'étais pas expressive, je riais pas aux blagues. Enfin, c'est comme si j'étais dans un autre monde à chaque fois. Et ça plaisait pas. Et du coup, on me trouvait bizarre. Oui. Et par exemple, mon premier travail, il fallait que je sois en contact avec des clients. Donc, on m'a mis à la caisse ou je sais plus trop. Et au bout d'une demi-journée, on m'a dit « Non, toi, tu vas aller faire la plonge. T'as rien à faire. » Mais c'était très, très violent.
Oui, c'est violent. Parce que vous dites dès la première demi-journée, enfin, oui, comme si vous étiez incapable.
Voilà. Oui. Toi, t'es bonne. Et du coup, j'ai retenu ça, que j'étais nulle en relation, que je savais pas y faire et qu'il fallait que je fasse le ménage, quoi.
Oui, alors que vous êtes réservée. Ça ne veut pas dire que vous êtes nulle.
Oui, mais c'est dans ces boulots-là, il fallait être rapide, il fallait sourire, il fallait... Oui.
Enfin, on ne vous a pas laissé le temps de vous adapter.
On ne m'a pas laissé du tout le temps. Non. C'était très, très violent.
Et à l'école, en revanche, vous me parliez d'amis. Donc, à l'école, ça, vous aviez trouvé votre place?
Alors, jusqu'au collège, j'ai eu quelques amis.
Oui.
J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais.
Oui.
Avec qui ça se passait bien. Et par contre, à partir du lycée, je me suis beaucoup enfermée. Et là, c'est pas que j'étais harcelée, c'est que moi, je me mettais à l'écart. Et par exemple, je m'enfermais dans les toilettes, à la récré, je m'enfermais. J'évitais les autres, oui, oui.
Oui, finalement, c'était un refuge pour ne pas être en contact avec les autres.
Ouais, je me mettais toute seule à l'écart. Donc, il y a même des gens de ma classe qui ne me connaissaient pas. Tellement j'étais invisible. Et une fois, on m'a dit « Ah, mais t'es dans la classe, toi ?» Au bout de 6 mois, quelqu'un m'a dit ça.
Oui, comme si vous faisiez en sorte d'être toute petite, qu'on ne vous voit pas.
Oui, en fait, tout à fait. Je ne voulais pas qu'on me voie, je ne voulais pas qu'on ait l'attention sur moi.
Mais comme et un peu travail, quand vous étiez pareil. Enfant, enfin, essayez de vous faire le plus discrète possible et de passer inaperçu.
Oui, c'est ça, c'est que je pense que je ne voulais pas déranger.
Mais ça veut dire qu'au fond, vous, pourquoi vous dérangez? Comme si les adultes autour de vous étaient trop occupés à autre chose, peut-être à se disputer. Bon, finalement,
bah, je sais pas, mais en
prendre
tout
soin
cas,
de vous.
Ouais.
Et alors, à l'âge adulte, vous me dites que de vous-même, puisque vous vous intéressez beaucoup à la psychologie, ce qui est une façon de comprendre ce qui se passait, au fond, ce mal-être qui était le vôtre, qu'est-ce que ça a donné, ça?
Bah, c'est un peu une catastrophe, là.
Ah bon? Pourquoi?
Bah, j'ai aucune relation. Toutes mes relations sont catastrophiques. Et du coup, en fait, soit je suis dans la peur, dans la phobie sociale ou dans l'évitement, soit je suis dans le conflit.
Soit vous fuyez.
Soit je suis dans le conflit. Je me retrouve dans des conflits.
Mais conflits provoqués par les autres ou comment? Conflit avec qui? Vous pouvez me donner un exemple là, de conflit récent?
Je ne sais pas, par exemple, avec le voisinage.
Qu'est-ce qui se passe avec le voisinage?
C'est des petites choses, mais c'est... On va me dire que, je ne sais pas, je mets trop de choses sur mon balcon, que je fais trop de bruit. Ou...
Vous faites du bruit chez vous ?
Ouais, c'est ce qu'on me dit.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous mettez de la musique ou...
Oui, mais pas de façon excessive.
Oui.
En fait, j'ai toujours un peu des regards de travers, des choses un peu désagréables.
Finalement, comme si vous vous sentiez agressée par les autres à chaque fois.
En fait, je me sens tout le temps en danger.
Oui.
Je me sens tout le temps dans la peur. Je me sens tout le temps comme si j'étais une proie, quoi.
Et comme quand vous étiez petite, avec ces cauchemars et ces crises d'angoisse, qu'est-ce qui vous faisait si peur quand vous étiez enfant ?
Ben justement, je ne m'en souviens plus.
Et dans les thérapies que vous avez entrepris, est-ce que vous avez pu un peu essayer d'approcher ces peurs comme ça ?
Ben oui, après j'ai fait une psychanalyse en thérapie analytique pendant 2 ans. Donc on a parlé de mes parents. Mon père qui me faisait peur, oui.
Pourquoi il vous faisait peur, votre père ?
Parce qu'il était très froid, il était très autoritaire et il se mettait dans des grosses colères.
Oui.
Et donc moi, ça me faisait peur.
Mais oui. Après vous aussi, pas seulement après votre mère ?
Oui, oui. Oui, un peu contre tout le monde. Il était très calme et d'un seul coup, il s'énervait.
Bah, c'est très angoissant, ça. Vous ne compreniez pas.
J'ai encore son visage là dans mon esprit.
Son visage déformé par la colère ?
Ouais, je vois ses gros yeux, en fait.
Oui.
Gros yeux qui faisaient peur.
Oui. Sans comprendre pourquoi, finalement.
Non, et puis il était très pointilleux sur l'éducation, ceci, cela. Et il se mettait en colère pour des petits riens. Et en plus, à chaque fois, ma mère... elle nous défendait, en fait.
Oui.
Et du coup, ils se disputaient entre eux.
Oui.
Donc, c'est pour ça que je les ai toujours vus un petit peu en opposition.
En vous sentant peut-être un peu responsable, puisque c'était pour prendre votre défense.
Oui, par moments, je pense que j'ai dû sentir ça.
On peut comprendre que l'enfant que vous étiez cherchait à se faire... la plus transparente, la plus invisible possible, pour ne pas provoquer de telles réactions.
Ben, c'est possible, ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu des parents tellement opposés. Mon père, qui était très introverti, pas du tout sociable.
Oui.
Et très colérique, très autoritaire. Et ma mère, tout le contraire.
C'est-à-dire ?
Très sociable, très à l'aise avec les gens et très protectrice, en fait.
Qu'est-ce qu'elle en dit, votre mère, aujourd'hui ? Elle sait que vous n'allez pas bien ?
Ah oui, 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 elle sait. Elle est très, très embêtée pour moi. Mais quand je lui parle de l'enfance ou de la famille, elle ne veut rien entendre.
Ah bon ?
Elle est dans un espèce de déni. Parce que moi, j'ai essayé de lui dire que je voyais des thérapeutes, qu'on a parlé de ci, qu'il y a eu ça qui est ressorti, mais elle, non, elle ne veut rien entendre.
Mais c'est-à-dire qu'elle se fâche dans ces cas-là, ou elle change de sujet ?
Elle change de sujet, ou elle minimise. Ouais. En fait, elle me dit des choses comme « Oui, bah, tu sais, dans toute famille, il y a des problèmes. » Elle minimise tout, en fait.
Oui, elle n'entend
toute
pas.
Toute ma douleur, elle ne veut pas entendre ce que j'ai souffert quand j'étais enfant. Elle ne veut pas l'entendre.
Oui.
Donc j'ai essayé, mais...
Oui, vous vous heurtez à un mur.
Ça ne sert à rien.
Oui, mais ça montre que... Vous me dites en plus, vous qui êtes hypersensible, vous avez dû refouler tout ce que vous ressentiez. Toutes ces émotions, et qui ressortent à certains moments avec ces crises d'angoisse, finalement.
Oui, parce que même... Enfin, je vous dis, parfois j'ai des émotions qui sont trop... exacerbée d'un coup, enfin disproportionnée, voilà. Je peux me mettre d'un coup très très en colère pour une petite chose.
Et... Oui, ça peut partir sur une petite chose, mais en fait, ça veut dire que cette colère, elle est là. Qu'est-ce qui vous met en colère, finalement ? Qu'est-ce qui...
Alors, c'est quand on ne respecte pas mes besoins. Par exemple, quand je dis à une personne, ça me dérange, mais qu'elle continue de le faire. Oui. Sinon, le mensonge, c'est quelque chose que je déteste.
Oui.
La manipulation, le mensonge, les complots, tout ça, ça me rend dingue.
Vous avez le sentiment d'avoir grandi avec du mensonge autour de vous?
Oui, oui, beaucoup.
Ça se manifestait comment?
Bah, parce qu'en fait, j'étais dans une famille où de l'extérieur, tout était parfait, quoi. Tout était beau, on avait l'air idéal. Et à l'intérieur, bah voilà, comme je vous dis, il y avait des conflits, il y avait des choses qui n'allaient pas.
Beaucoup de choses non dites.
J'ai eu aussi des problèmes, des comportements incestueux dans ma famille.
Avec
tout
qui
ça, avec mon père et ma sœur.
Votre père était incestueux avec votre sœur?
Non. Les deux étaient avec moi.
Votre père et votre sœur étaient incestueux avec vous?
Oui.
Mais ensemble?
Non, séparément. Enfin, ils avaient des comportements un peu déplacés, quoi.
Quel genre de comportement?
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était des mots ou des gestes.
Il ne respectait pas votre espace, votre intimité?
Bah non, il y avait des allusions à la sexualité qui n'étaient pas du tout adaptées.
À votre âge?
Oui. C'était pas du tout normal.
Et votre sœur est plus âgée que vous?
Oui.
Vous avez beaucoup de différences?
On a 4 ans de différence. 4 ans.
Mais elle tenait des propos hyper sexualisés, votre sœur?
En fait, non, c'est plus qu'elle avait des comportements déviants au niveau de la sexualité. Elle avait des comportements un peu malsains.
Mais elle avait quel âge? Quand elle avait ces comportements-là, adolescente?
Adolescente, ouais.
Qu'est-ce qu'elle avait comme comportement?
Pas facile d'en parler, mais elle me montrait par exemple des images
pornographiques.
Oui. Par exemple.
Hein. Oui.
Où elle me racontait les détails de ce qu'elle faisait.
Avec ses petits amis.
Oui. Il y avait aussi ses petits amis qui me draguaient, qui.
Mais alors votre père, vous me dites qu'il était si irascible, si colérique. Finalement, il acceptait tout ça, il laissait faire.
Non, lui, justement, il était très. En fait, je sais pas, c'est comme s'il essayait de la cadrer. À cette époque-là, ma sœur, elle faisait n'importe quoi, et lui, il était autoritaire, du coup. Mais ma mère s'opposait. Enfin, encore une fois, ils n'étaient pas du tout pareils. Et,
Mais elle était au courant, votre mère, ou elle ne l'a pas su?
Bah, de certaines choses, enfin, je ne sais pas, en fait. Il y a des choses. Par exemple, ma sœur s'habillait de façon très provocante et elle ne disait rien. Mais elle ne savait pas ce qui se passait entre ma sœur et
moi. Oui, elle ne savait pas qu'elle vous montrait des images pornographiques. Et votre père?
Mon père ne savait pas non plus.
Oui, mais avec vous, vous me dites qu'il avait des comportements incestueux.
Bah, c'est juste une impression.
Oui, mais ça compte les impressions.
En fait, j'ai des images parfois, mais je ne sais pas si ça s'est vraiment passé. Que j'étais sur ses genoux et qu'il me caressait les fesses, par exemple. Mais je ne sais pas si je l'ai imaginé ou pas. Mais par exemple, c'était des blagues. Je ne sais plus. Par exemple, j'avais fait des cours de langue étrangère et puis jouer sur les mots, quoi. Sur le mot langue, quoi. Enfin, les cours de langue. Des choses comme ça.
Ce qui était totalement déplacé de la part d'un père vis-à-vis de sa fille.
Oui, c'est pour ça qu'en psychanalyse, on a parlé de ça quand même. Que c'était pas du tout normal.
Non. Non. Et là, contrairement à ce que dit votre mère, c'est pas comme ça dans toutes les familles.
Ah bah oui, mais ça, de toute façon, ça, elle veut même pas l'entendre.
Elle veut pas l'entendre.
Et puis quand j'ai commencé il y a quelque temps, parce que j'ai beaucoup de colère, donc.
Ben oui, mais il y a de quoi avoir de la colère.
Vu les conséquences, c'est surtout vu les conséquences que j'ai actuellement sur ma vie, qui sont désastreuses.
Vous avez donc, des petits amis, vous, des
ouais,
compagnons.
Ouais, mais c'était une catastrophe parce que en fait j'ai reproduit, j'étais avec des hommes très malsains, très toxiques parce que je connaissais que ça. Parce que mon père était comme ça et les petits amis de ma sœur étaient comme ça. Et du coup, je me suis retrouvée avec des hommes pareils. Les premiers que j'ai. Enfin.
Oui.
Et du coup, j'ai eu que des hommes qui étaient comme ça. Ils me traitaient un peu en objet. Ils me rabaissaient, ils m'humiliaient, ils me trompaient. Enfin, j'ai tout eu, quoi. Le pire du pire. Et après, pareil, ça m'a fait des blocages. Donc.
Oui, mais vous voyez que derrière ces angoisses, il y a des choses, graves qui se sont passées dans votre environnement familial.
Même mais en fait, le problème, oui. C'est que moi, j'arrive pas à me dire que c'est grave. Il y a des moments où je le pense et où je le ressens. Il y a des fois, je me dis, mais attends, t'as pas eu de viol, des choses comme ça, par rapport à d'autres personnes.
Oui, mais alors là, d'un point de vue psychique, on sait que pour un enfant d'être exposé à des images pornographiques, ça équivaut à un viol psychique. À un âge où l'enfant n'est pas à même d'intégrer des images, ça lui fait violence, ça fait effraction dans sa tête et dans son corps.
Oui, c'était très violent.
De la même façon, un contexte qui est très érotisé, vous faisiez des langues étrangères, votre père faisait des jeux de mots très sexués autour de la langue et autres. C'est forcément, ça crée un profond malaise. Parce qu'à ce moment-là, plus personne n'est à sa place. Il n'est plus à sa place de père, vous n'êtes plus à la place d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un contexte malsain, érotique,
c'est ça,
qui n'a pas lieu d'être.
En fait. Très malsain, mais très discret, quoi. Pas des choses.
Oui, mais sur un plan psychique, c'est aussi dévastateur. Vous savez, il y a des familles où on parle de transactions incestueuses, où il n'y a pas forcément d'acte, mais où il n'y a pas, par exemple, le respect de l'espace de chacun, le respect de l'intimité, où il y a des familles où il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé, où on peut rentrer dans la salle de bain sans frapper, où il y a une exhibition des corps.
J'ai eu des choses comme ça parce que j'ai, par exemple, ma mère qui se promenait toute nue.
Oui.
Je ne sais plus quel âge j'avais, mais je sais que ça me gênait de la voir toute nue.
Oui.
Ma mère rentrait aussi dans ma chambre, elle était très intrusive.
Oui.
Donc elle rentrait, fouillait un peu dans mes affaires. Ma sœur était intrusive parce qu'elle me piquait des photos intimes, enfin avec des amis, elle me les volait, elle me volait mes affaires. Donc il y a plein de choses comme ça.
Mais votre sœur, elle est très mal aussi.
Bah sûrement, oui, mais.
D'une autre façon que vous. Elle était beaucoup dans une forme d'exhibition, de provocation. C'est pas anodin de la part d'une sœur aînée d'aller montrer des images pornographiques à sa sœur plus jeune. Comme s'il y avait un climat d'hyper-excitation, d'hyper-érotisation.
Ouais. Ben, on était complètement l'opposé, quoi. Elle, c'était.
Oui, mais on peut réagir différemment.
En tout cas, mon père, avec nous deux, était un peu bizarre.
Oui.
C'est vrai qu'il nous a pas fait des abus physiques, enfin.
Oui, mais c'est une forme d'abus. En tout cas, un abus de pouvoir.
Par exemple, quand on avait un petit ami, il était très en colère, il nous en voulait. Alors qu'on était à des âges où on pouvait avoir des petits amis, donc des choses comme ça. Il nous punissait, comme si on n'avait pas le droit.
Voilà. Voilà.
Comme si on lui appartenait, en fait. C'est vrai que c'est malsain. C'est
Oui.
Pas normal.
Oui. Comme s'il entrait en rivalité avec ses petits amis à des âges où, comme vous dites, c'est normal de,
bah oui,
d'avoir, d'avoir d'éprouver des sentiments, une attirance pour quelqu'un d'autre. Oui, mais comme lui, au fond, vous n'étiez plus à votre place d'enfant, ou ses filles, c'est comme si vous lui apparteniez et qu'il se mettait en rivalité.
Mm.
Finalement... tout le contexte, ce contexte que vous me décrivez, est très problématique et très générateur d'angoisse. D'autant plus que c'est nié et pas reconnu. Vous me dites que votre mère était très protectrice, mais au fond, tout ça, elle évoluait aussi dans ce contexte-là.
Je pense qu'elle était dans une forme de déni et elle,
oui.
Elle a toujours eu ce côté-là de déni.
D'où votre colère aujourd'hui?
Ouais, par moment. Alors, je suis très proche d'elle et on s'entend très bien, mais il y a des moments où ça remonte d'un coup.
Oui, mais c'est normal que ça remonte.
En fait, quand je fais des grosses crises d'angoisse terribles et que je souffre tellement, je me dis c'est à cause d'eux, je leur en veux.
Mm.
Et dans ces moments-là, oui, je peux mettre très très en colère.
Mm.
Et je lui dis les mots, et encore, ça m'a mis 38 ans.
Hein, mm.
Parce qu'avant, je ne disais rien.
Oui.
Pour mettre le mot maltraitance, etc.
Oui.
Et aujourd'hui, quand je dis ce mot, ben, en fait, c'est terrible, c'est qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de réaction.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas.
Il n'y a pas de reconnaissance de ce que vous avez vécu.
C'est comme si j'avais tout imaginé, que ça n'existait pas.
Mm.
Et il y a des moments, je finis par croire que j'ai.
Bah, on peut se dire, on peut croire qu'on est fou. Enfin, que c'est
qu'on a inventé, qu'on a mal interprété,
voilà. Oui.
Et parce qu'en plus, par la suite, du coup, bah, j'ai eu des problèmes sexuels.
Oui.
Et où justement, mes partenaires me disaient, en gros, t'es trop coincée, quoi, pour faire simple.
Mm.
Donc, du coup, j'ai encore parfois ces impressions-là que si j'ai mal vécu tout ça, c'est parce que moi, j'étais trop coincée.
Le problème vient de vous.
C'est moi qui suis trop coincée de base.
Bah, déjà, de la part de vos partenaires, le dire de cette façon-là, c'est très désobligeant. Parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre.
C'est pour me rabaisser de toute
c'est
façon.
Ça.
Et ça ne les empêchait pas de coucher avec moi, par contre. Hein.
Oui, c'est ça. Parce qu'après tout, ils auraient pu, à un moment, dire... peut-être s'éloigner, mais au fond, ils vous en faisaient le reproche, mais ils restaient avec vous.
Bah, ils s'en servaient beaucoup, hein.
Oui, au fond, comme si vous étiez là aussi objet, vous m'avez dit, et pas sujet dans la relation.
Moi, j'ai souvent eu l'impression d'être un objet plus qu'une personne. Mmh. Et encore aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que ben là, même quand j'essaie de rencontrer un homme, c'est tout de suite mon physique. Mon physique, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça.
Mmh.
Et on s'est toujours intéressé à moi, on m'a toujours dit que j'étais jolie, mais moi, ça m'insupporte presque et aujourd'hui je fais tout ce qui est inversé, je mets plus de maquillage, je suis dégoûtée de ce côté féminin en fait qui excite les hommes. Ça me dégoûte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
si, je vois très bien.
Je veux plus qu'on me regarde comme ça, j'en peux plus.
Oui, mais parce que vous avez été trop regardée comme ça.
J'ai été regardée comme un objet sexuel, oui.
Votre père, justement, quand normalement il y a l'éveil de la féminité après la puberté, ou comment est-ce qu'il faisait des commentaires sur votre physique?
Je m'en souviens pas. Dans la famille, de façon générale, on parlait souvent de notre physique.
De quelle façon on en parlait?
Bah, on nous comparait, par exemple, moi et ma sœur, qui en avait une, je sais pas, qui avait plus de forme que l'autre, enfin des trucs un peu nuls.
Oui, mais là aussi très sexué. Très déplacé.
Bah ouais, c'est ça. C'est
déjà vous mettre en rivalité et en plus, on sait à quel point à cet âge-là on est fragile face à ces transformations du corps qui nous échappent, qui mettent mal à l'aise quand les formes apparaissent comme ça chez les jeunes filles, mais que ça soit ouvertement observé et dit par les parents, ça met très mal à l'aise puisque vous n'êtes plus en position d'enfant, mais on mettait en avant que ces formes. Que cet aspect sexué, c'est-à-dire que le féminin a été très abîmé.
Ah oui, mais ma mère a toujours mis l'accent sur mes fesses.
Sur vos fesses.
C'est vrai que, enfin, j'ai pas beaucoup de poitrine, mais j'ai les fesses un peu rebondies, quoi, je sais pas. Et elle a souvent pointé ça.
Et comment, de quelle façon?
Ah bah Nathalie, pardon, je me dis mon nom.
Sandra, oui.
Elle a des, elle est, bof, comme ça, si on me reconnaît. Elle a des bonnes fesses. Ou au contraire, c'était. Ah, cette robe te moule trop. Il faut pas, enfin, comme si il fallait que je cache mes formes ou mon décolleté. Enfin,
c'est ça.
Je sais pas. C'est en fait, j'ai jamais compris pourquoi ma sœur, elle pouvait autant s'habiller vulgairement aussi jeune, et que moi, des années plus tard. Quand je mettais en décolleté, c'était pointé comme quelque chose de pas normal.
C'est incohérent.
C'est complètement dingue.
D'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que parfois, les jeunes filles peuvent surjouer les attributs de la féminité, parce qu'elles se cherchent, parce qu'à travers le maquillage très prononcé, à travers des vêtements, et c'est aux parents, quand elles sont très jeunes, de freiner un peu ça, mais freiner dans le sens de la protection, parce qu'effectivement les jeunes filles jouent avec tous ces codes, avec tous ces attributs de la féminité, sans se rendre compte de ce que cela peut provoquer, notamment du désir à des hommes, et qui peut les mettre en danger, enfin désir dont elles ne savent que faire. Avoir envie de plaire, c'est normal à cet âge-là, mais plaire à des hommes souvent plus âgés qui leur envoient leurs désirs de façon très violente et qui les met dans des situations très embarrassantes. Mais d'un côté, il y avait cette sœur qui, elle, pouvait être dans quelque chose de très sexualisé, qu'on laissait faire, et vous, au contraire, le moindre décolleté ou quelque chose qui mettait en valeur votre anatomie, c'était interdit. C'était incohérent, tout était incohérent, mais très sexualisé. Tout ça, ça laisse des traces, Sandra. Il y a une auditrice, il y a Cathy, qui dit, vous dites avoir fait un travail de thérapie analytique. Est-ce que vous avez pu parler de tout cela? Que vous ont dit vos psys? Enfin, c'est cet analyste que vous avez consulté.
En fait, le problème, c'est que voilà, j'ai souvent changé de thérapeute. J'ai eu du mal à... Ben, soit parce que j'étais pas à l'aise avec la personne.
D'accord,
soit,
ça.
Pour différents motifs, en fait.
Mais avec cet analyste avec qui vous êtes resté 2 ans.
Alors, justement, avec le recul, je pense que lui-même était assez pervers.
Ah bon?
Oui, parce que d'un côté, il m'écoutait, il me protégeait, il disait qu'il était là pour moi, que. J'avais pas eu des bons parents, mais que lui, il pourrait m'aider, enfin, des choses comme ça. Et en même temps, il me draguait un peu. Je voyais qu'il avait une attitude un peu bizarre.
Bon.
Et il était malsain, en fait, lui aussi.
Oui.
Parce qu'à un moment, bah, par exemple, quand je vous disais que je me sentais comme un objet, il me l'a dit, mais d'une façon horrible. Enfin, moi, j'ai eu envie de pleurer.
De quelle façon vous l'a-t-il dit?
Ah ben, j'ose même pas vous dire à l'antenne, mais
si.
Comme si, je sais pas, il a utilisé le mot trou, enfin comme si j'étais un trou. Fin.
Il a utilisé le mot trou.
Enfin, je sais plus, mais bref, vous comprenez.
En tout cas, ça que... vous a,
non, oui. C'était pas du tout adapté.
C'était pas adapté.
Mots.
Ça vous a, là aussi, plus, ça a fait effraction, quoi.
En plus, je sentais. Il voulait toujours que je lui parle de ma vie sexuelle et il insistait pour que je lui donne plein de détails. Alors que moi
ah bon?
Ouais. Enfin, il était très, très malsain.
D'accord. Bah alors, c'est important qu'il, malgré ça, vous avez mis fin à ces séances.
Au bout d'un moment, j'ai arrêté, oui. Mais bon, quand même.
Et aujourd'hui, vous êtes suivie?
Alors, je suis suivie là depuis quelques mois.
Avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance?
Oui.
Bon. Parce qu'il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup, enfin, au vu de ce que vous me décrivez, au départ, vous voyez, vous me dites, j'ai pas de souvenir de cette enfance. Enfin, je pensais qu'il y avait. Et puis, au fil du temps, plus ça va, plus vous me racontez des choses, traumatiques.
Bah, c'est plutôt à l'adolescence, en fait, que j'ai eu des traumas. Hein.
Oui.
Mais l'enfance, je ne me souviens pas.
Oui, mais enfin, il y a... Il y a quand même tout un contexte familial plus que problématique.
Ouais.
Cette grand-mère, d'ailleurs, je me disais, où là, il y a quelque chose de tendre, même dans votre voix, quand vous en parlez, ça vous ferait pas du bien de la revoir ?
Non, en fait, au jour d'aujourd'hui, ça me fait plus de mal.
Pourquoi ?
Que de bien, parce que c'est plus vraiment ma grand-mère.
Mais vous l'avez pas vue depuis combien de temps ?
Depuis, je l'ai pas vue depuis un an.
Oui. Mais elle a perdu, elle n'a plus ses facultés psychiques.
Elle a du mal à parler, elle
D'accord.
a du mal à bouger.
Ça vous angoisse.
Moi, ça me rend triste de l'avoir comme ça, dans cet état-là.
Mais ça peut jouer aussi dans votre état, parce que c'était une pièce maîtresse dans votre histoire.
Moi, j'ai très très peur du moment où elle va décéder.
Mais oui, vous m'avez dit qu'elle était en fin de vie. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des angoisses qui peuvent ressurgir, des angoisses de mort, et finalement de votre sécurité, cette grand-mère, elle vous apportait une forme de stabilité dont vous aviez tant besoin. Et je pense
oui, c'était
que
un peu mon socle, mais oui. Depuis quelques années, ça n'était plus le cas, puisque
oui,
je la voyais plus.
Mais c'est aussi une figure d'attachement à laquelle vous ne pouvez plus vous raccrocher. Alors, si, parce que le lien, il fait partie de vous. Tous ces sentiments, cet amour, cette tendresse, cette attention qu'elle, elle vous a donnée, il est à l'intérieur de vous.
Oui.
Mais dans un tel environnement, tellement chaotique, tellement peu cohérent, tellement problématique que vous, il y a des moments où vous vous perdez. Il faut vous accrocher à ça. Enfin, j'espère que vous avez trouvé là quelqu'un en qui vous allez pouvoir vous appuyer, en qui vous avez confiance et qui va un peu vous accompagner pour recréer ce socle dont vous avez besoin.
C'est vrai que là, pour le moment, il y a que ma thérapeute en ce moment.
Oui, mais c'est important. C'est important que vous ayez un endroit où vous pouvez être accompagnée.
Ce qui me fait du bien, c'est qu'elle, quand je lui parle, elle n'est pas dans le déni, elle ne m'analyse pas.
Mais oui.
Elle me dit que c'est normal, tout ce que je ressens.
Oui, oui. Ben oui, enfin, on vous entend, on reconnaît tout ce que vous avez vécu. Là, vous pouvez dire, mettre des mots au fond sur toutes ces angoisses. Qui par moments, il a fallu tellement taire. Il y a toutes ces peurs qui vous envahissaient. Quand vous parlez de phobie sociale, la phobie sociale, c'est la peur des autres. Notamment la peur du regard des autres. Vous me dites vous me parlez de timidité. Je ne crois pas que ça soit vraiment de la timidité. C'est une inhibition. Et en fait, il y a ces gros yeux de votre père qui vous suivent partout. C'est comme si les autres, c'était ces yeux inquisiteurs, intrusifs, qui vous jugeaient, qui vous scrutaient de façon très malsaine. Donc, vous allez pouvoir petit à petit vous défaire de tout ça. Et vous en défaire en mettant des mots dessus, enfin. Les peurs.
En fait, j'ai eu l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé parce que j'ai déjà vu beaucoup de thérapeutes.
Oui.
Mais j'ai jamais trouvé, en fait, le bon ou la bonne thérapeute, vraiment.
Et là, vous me dites qu'avec cette personne, ça, vous vous sentez bien.
Oui, c'est la première fois.
C'est important, alors. C'est important. Oui. Première fois qu'on vous entend et qu'on ne va pas c'est pas à la thérapeute de vous mettre des mots, voyez. Elle n'a pas à orienter. Par moment, elle peut orienter à travers des questions. Mais quand vous me dites ce psy qui s'intéressait beaucoup à votre sexualité, qui voulait des détails, ça ne va pas.
Non, ça va pas du tout. J'ai essayé un peu des années après, pas de le dénoncer, mais de me venger.
De le signaler. Comment
vous... via Google.
Vous avez mis un avis. Vous pouvez le signaler, si aussi à l'ordre des médecins ou des psys. Hein.
Oui, mais comme il n'est pas médecin, c'est compliqué parce que j'ai déjà eu le cas. Je suis tombée vraiment sur des cas pas possibles. J'avais une autre psychologue qui était complètement folle. Et j'avais essayé de la signaler, on m'avait dit que je pouvais pas parce qu'elle n'était pas médecin.
Ah ben si, il y a des... Bah oui, mais enfin, il n'y a pas que l'ordre des médecins, il y a aussi un ordre pour les psychothérapeutes.
Hein. Ah d'accord, je ne savais pas.
Oui. On va voir un petit peu ce qu'en disent les auditeurs qui vous ont écouté, j'imagine, très attentivement. Paul, des réactions sur Facebook ?
Exactement, il y a Nathalie qui dit « Aucun respect, une violence de la part de toute une famille abusive dans un contexte angoissant. Relevez la tête, ne les laissez pas gagner. Votre corps vous appartient, vous n'avez que lui pour vivre à votre façon. Énormément de jalousie aussi envers vous parce que tous n'avaient rien de ce que vous aviez. » Il y a Bob White aussi qui dit « Votre témoignage, il est vraiment très touchant. Comment vos parents se comportent-ils aujourd'hui ?»
Bah alors c'est simple, mon père, j'ai coupé les ponts.
Oui, on peut comprendre.
Et comme j'expliquais à Caroline, ma mère, elle est très ambivalente parce que d'un côté, ma chérie et tout, et puis dès que je lui parle du passé, je veux rien entendre.
Le déni.
En fait.
Il y a David qui vous comprend très bien. Il dit, moi, je suis moi-même agoraphobe depuis l'âge de 20 ans. J'en ai 48. Je me suis aussi éloigné petit à petit de toute ma famille. Je vis seul. Je ne sors jamais. J'ai peur des gens et du regard des autres. J'ai jamais eu d'amis dans ma vie. Et en ce moment, je vais au CATTP, qui veut dire Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, du CMP à côté de chez lui, du Centre médico-psychologique. Donc peut-être que vous pourriez aussi aller dans votre région, dans cet endroit, pour voir aussi un peu de monde. Et puis, alors, quelque chose de peut-être un peu plus léger, mais c'est Thierry qui suggère ça. Ce serait quand même bien de vous refaire du lien social avec un animal, comme un chien, par exemple, parce que en sortant, on rencontre des gens, on échange.
Oui, mais il a raison.
Ça demande de l'attention, on redonne beaucoup d'amour à son maître aussi. Donc, vous semblez, malgré votre sensibilité, être quelqu'un d'intelligent, de sincère,
c'est vrai.
Et surtout intéressante.
Ah, oui. Bah, c'est gentil.
Vous exprimez très bien. Ça.
Oui, parce que justement, j'ai souvent l'impression qu'on ne s'intéresse pas à moi, et comme je vous disais tout à l'heure, ou que à mon physique.
Mais là, vous voyez, en radio, l'avantage, c'est qu'on ne connaît pas, on ne voit pas votre physique, et on vous entend, vous.
C'est pour ça que je vous disais que parfois, j'ai même pas envie de...
Oui, mais d'être invisible, d'être. Mais là, c'est pas votre physique qu'on a vu, c'est votre voix est chargée d'émotions. Et toute votre sensibilité, votre intelligence qui s'est exprimée, et c'est ça qui vous rend extrêmement émouvante et attachante. Et je rejoins ce que disait Thierry, je pense, qui parlait des animaux, peut-être d'ailleurs pour avoir recréé du lien, aller vers les autres, peut-être via les animaux, en vous rapprochant de... Peut-être, pourquoi pas d'ailleurs, une formation pour travailler dans ce domaine-là, ou en vous rapprochant d'associations, de protection animale, qui pourrait être un moyen de renouer, de créer des liens avec des humains via les animaux, avec qui ou là, finalement, il n'y a pas besoin de parler, ça parle directement à vos émotions et à ce que vous êtes. Peut-être ça peut valoir la peine. En tout cas, merci beaucoup, Sandra, d'avoir témoigné ce soir, de vous être exprimée.
Et j'espère aussi que ça aidera, parce que c'était très très dur d'en parler. Et pour tout ce qui est inceste, etc., je trouve que c'est encore très très dur de témoigner sur ça.
Et vous pouvez là aussi vous rapprocher d'associations. Peut-être que ça vous ferait du bien de faire partie de groupes de parole.
Bon. Ouais, c'était compliqué, donc là, pour l'instant...
Alors, poursuivez plutôt ce travail en individuel, avec quelqu'un que vous avez trouvé qui vous correspond. Vous allez y arriver. Donnez-vous le temps d'aller mieux, Sandra.
Oui, oui.
Je vous embrasse.
Merci, Caroline.
Au revoir.
Au revoir.
Easily said, don't.
Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
23h, 1h, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Nous sommes à vos côtés jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11. Peut-être c'est un retour de vacances pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'en prendre. Peut-être vous appréhendez un peu la reprise, replonger dans le bain du travail. Si vous voulez un peu prolonger le week-end, les vacances avec nous, on est là à votre écoute. 09 69 39 10 11. Et vos réactions sur la page Facebook RTL-Parlons-nous ou par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message. Il y a Cathy qui dit très touchante Sandra, peut-être que revoir sa grand-mère pourrait lui éviter d'avoir des regrets. Alors elle dit, vous savez, même si elle a un peu de mal aujourd'hui à communiquer, le sourire, le toucher, c'est très important aussi. Je l'ai fait avec ma maman et c'était très fort, nous dit Cathy. Oui, moi je pense que cette figure d'attachement, elle est importante et ça pourrait lui faire du bien. Alors elle nous disait en même temps, Sandra, que ça lui faisait peur parce qu'elle avait l'impression de ne plus tout à fait la retrouver. C'est difficile hein, de savoir pour elle ce qui serait bon, mais peut-être tant qu'elle est là encore. Paul, une réaction ou des réactions qui sont arrivées pendant la musique ?
Alors, pendant la chanson, tiens, pendant que tu en parles, il y a Stéphanie qui dit bah, merci de mettre du Alan Parsons Project.
Ah, bah, tant mieux, c'est vrai, c'est chouette.
C'est devenu rare et ça fait du bien. Ouais, bah, ah, ouais, oui, vous pouvez même réagir sur les chansons, évidemment, vous pouvez réagir sur tout.
Pascal Amiot,